me souviens très bien d'avoir regardé Normand dans les yeux, puis il me regardait, puis il dit « ça se peut pas ». Il dit « les gens nous accordent beaucoup trop de valeur, on vaut pas ça ». Et le 1,25, 6 à 8 mois plus tard, il était rendu à 20,70. À ce moment-là, la compagnie valait 2 milliards.
C'est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 226e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que le groupe J7 qui est derrière ce podcast produit également 3 autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook de haut niveau. Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Et le dernier en date provenant d'une acquisition No Pay No Play, un balado qui introduit les acheteurs médias à la publicité sur les plateformes de Meta. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques, venez discuter en direct avec moi sur LinkedIn. À chaque semaine, je discute avec des dizaines d'entre vous et les discussions nous amènent continuellement à trouver des nouvelles approches afin de faire croître votre entreprise. J'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec un des pionniers québécois qui a initié la première vague web à la fin des années 90. Christian Guy, cofondateur de la Toile du Québec, célèbre moteur de recherche qui a fait ses classes au début des années 2000, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'histoire incroyable que lui et ses collègues ont vécu il y a plus de 20 ans maintenant. Leur entreprise, qui à un certain point avait atteint une valorisation boursière totalement hors norme, se chiffrant à 2 milliards de dollars, a été le premier joueur à vraiment faire bouger les choses dans l'avènement du web 1.0. au Québec. De leur ascension à devenir une entreprise publique à la vente du groupe à Québecor, Christian nous ramène en coulisses de l'une des histoires entrepreneuriales les plus fascinantes que le Québec a connues. Sans plus attendre, ma discussion avec Christian Guy. Christian Guy, tu as fait partie des membres fondateurs du moteur de recherche La Toile du Québec, excessivement populaire dans la province vers la fin des années 90. Votre entreprise, devenue publique en 1999, fut l'une des sociétés les plus importantes dans l'univers du web au Québec entre 2000 et 2005, en étant un des sites les plus fréquentés dans la province. Christian Guy, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait énormément plaisir d'être ici avec vous pour parler d'une ancienne vie.
Et ça va te ramener, j'imagine, des beaux souvenirs parce que pour ceux qui n'ont pas connu la Toile du Québec, qui était excessivement populaire, moi, quand j'ai commencé à consommer l'Internet, peut-être, Christian, tu pourrais expliquer aux gens qui l'ont pas connu, qu'est-ce que c'était ce très beau site web?
Avec plaisir. Écoute, la Toile du Québec, c'était le premier portail Internet québécois. Je me demande si on n'était pas le premier portail canadien, d'ailleurs, mais on était principalement en langue française. Ça a été, pour beaucoup de mes contemporains, donc les gens qui étaient adultes autour de 1995, la façon de découvrir puis d'apprivoiser Internet et tout ce qui était numérique. On était finalement la porte d'entrée du numérique. Puis c'était un répertoire. Là, aujourd'hui, on en a beaucoup moins des répertoires, mais ceux qui connaissent encore Yahoo, c'était un peu un copycat de ce que Yahoo faisait aux États-Unis. Nous, on le faisait pour le Québec. Puis autour de la toile, bien sûr, on a lancé des dizaines de sites différents, des sites d'information diverses. C'est comme ça qu'on est devenu, malgré que les gens nous disaient tout le temps qu'on était une start-up techno, il n'y avait rien de technologique vraiment dans la toile, c'était une start-up de médias. Mm-hmm. On était la première start-up de médias numériques au Canada. On a même aidé Radio-Canada Sport à aller sur le numérique avec notre division de création de sites web. Mais tout ça pour dire que finalement, pour moi, la toile, puis je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, ça a été d'abord un immense laboratoire sociographique. C'est l'école numérique de centaines d'artisans du web qui ont appris leur métier chez nous puis qui travaillent encore aujourd'hui là-dedans. Puis ça m'a fait devenir, moi, personnellement, un témoin privilégié de tout ce qui est numérisation des activités humaines. Moi, je suis un nerd, je m'intéresse beaucoup à la numérisation de l'activité humaine. Puis la toile, ça a été le plus beau laboratoire pour apprendre.
Et bon, remontons un petit peu au début. Donc, c'est en 1995 que tout ça a été lancé avec ton associé Eve Williams, si je ne me trompe pas ici.
Exactement.
Comment l'idée vous vient? Parce que là, bon, on est en 95, on n'est pas en 2023, donc des idées de site web, de technologie, on est dans deux environnements différents. Comment cette idée-là vous vient? Est-ce que vous vous connaissez même au départ?
Ben oui, en 1995, Yves et moi, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble. Yves a été mon patron au journal Le Devoir. C'est lui qui m'a embauché comme préposé aux annonces classées. Et avec le temps, je suis devenu directeur du département des abonnements. Puis on partageait un bureau. On avait un bureau commun avec une cloison entre les deux. Et on travaillait tous les deux le soir de 5h à 21h. Puis pendant que nos employés faisaient de la sollicitation téléphonique, nous, on jasait toutes sortes d'affaires. Et Yves cherchait une solution pour numériser et donc publier numériquement les appels d'offres du gouvernement. Le journal Le Devoir était journal national francophone au Canada et on avait tous les appels d'offres du gouvernement. Et on cherchait un moyen, lui cherchait un moyen, puis avec moi, de numériser tout ça. Puis on a commencé à s'intéresser à tout ce qui était les BBS, le Bulletin Board System, pour faire ça. Et en se faisant, on a découvert Internet, puis on s'est rendu compte en 1995 qu'on pouvait avoir un accès à Internet à la maison. C'était pas limité seulement à l'université, comme on avait appris à l'université. Et on a commencé littéralement à gosser. Mais la toile, elle, c'est un accident. C'est un accident de parcours parce que en cherchant des ressources numériques en français pour Yves voulait avoir des ressources en français. Moi, j'étais comme déjà parfaitement bilingue, fait que j'allais beaucoup aux États-Unis. On s'est mis à répertorier les sites francophones qu'on trouvait. Et à l'époque, en 1995, la France était très en retard sur Internet parce qu'ils avaient le Minitel, eux, de leur côté. Alors, ça leur a pris peut-être 4-5 ans de plus à embarquer sur Internet, mais les sites francophones qu'on trouvait étaient au Québec. Et on avait fait une page web pour se pratiquer à faire du HTML avec ces sites-là. Il y en avait une cinquantaine au début. Et pour faire nos premiers apprentissages, on avait publié cette page-là sur les réseaux Usenet, les groupes de discussion Usenet. Et il y avait même pas de nom. C'était un répertoire de sites. Puis un peu à la blague, j'avais changé le nom à un moment donné pour La Toile du Québec, qui était une hyper-francisation de Québec Web. Et la blague a pris parce que les gens se sont appropriés le nom pendant la nuit où j'ai fait la blague à Yves de mettre le nom La Toile du Québec. On avait trouvé le nom ensemble, mais je l'avais fait à la blague de le mettre sur la page. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait créé un monstre beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Tout le monde parlait de ça. Tout le monde applaudissait. Il y en avait qui applaudissaient le gouvernement du Québec d'avoir lancé La Toile du Québec. Il y a des gens qui pensaient fondamentalement que c'était un projet gouvernemental. Ça l'était pas. C'était deux gars du plateau Mont-Royal qui gossaient dans leur appartement un site comme ça. Fait que ça a commencé comme ça. Finalement, un peu par accident, par opportunisme. Les deux, on était au journal Le Devoir.
C'est souvent comme ça que des entreprises se lancent. Très intéressant de le savoir. Et bon, 95, le lancement. 96, je pense que vous vous associez à deux autres personnes, Marc Coptier et Normand Drolet. Et là, par la suite, ensemble, vous créez l'organisation Netgraph qui, bien entendu, va avoir la toile du Québec, mais tranquillement, tu l'as même mentionné un petit peu plus tôt, il y a d'autres sites Internet qui s'intègrent, il y a d'autres médias qui s'intègrent. Comment tout ça se met en place avec Netgraph? Et peut-être tu peux nous parler de ces autres sites Internet qui étaient dans le regroupement.
Tout à fait. Donc, la toile en 95, puis à un moment donné, on s'est rendu compte que... Puis n'oubliez pas, là, moi, en 1995, là, j'ai 24 ans. J'allais avoir 25 ans. J'étais encore un gamin. J'avais eu le bonheur d'avoir des associés beaucoup plus vieux que moi, au moins 15 ans plus que moi, qui avaient beaucoup plus de sagesse que moi. Et on s'est rendu compte que là, il fallait qu'on parte une business. Mais Yves est sociologue de formation. Moi, je suis littéraire de formation. On n'avait pas nécessairement de business acumen, comme on dit encore. Et on s'est fait présenter par une amie commune, Normand, qui était, lui, un administrateur agréé, un comptable de formation, puis qui aidait les entreprises à lever du financement. Et lui, il est associé avec Marc Coptier. On les a rencontrés quelques reprises, puis rapidement, ils nous ont dit, eux croyaient énormément à notre projet, mais ils ont dit, il n'y a personne qui va financer ça. On est en début 96. Les banques ne savent même pas c'est quoi Internet. Il n'y a pas de financement corporatif comme aujourd'hui on a. Le concept de start-up n'existe pas encore. Au Québec, en tout cas. Et ils décident, eux, de se lancer avec nous puis d'investir de leurs économies dans le projet. Alors, on est parti à 4, chacun à 25 % de l'entreprise, puis on s'est donné des rôles respectifs. Moi, j'étais le nerd de service qui savait programmer puis qui savait parler aux développeurs. Yves était le cerveau de l'opération médiatique. Normal, gars de financement et de gestion. Puis Marc, c'était un gars aussi de finance. Alors, on a vraiment parti ça à 4 gars... qui se connaissaient pas beaucoup, puis qui ont appris à se connaître très vite. Et par la suite, on a lancé très rapidement d'autres sites. On a créé la corporation Netgraph pour encapsuler les activités de la toile, mais on avait déjà des velléités beaucoup plus grandes que seulement le répertoire. Alors, on a créé des médias d'information, on a créé Mégagiciel, qui était le plus gros répertoire de logiciels disponibles sur Internet au Canada pendant longtemps. Il y a des gens qui ont appris à leur métier grâce à Mégagiciel. On avait des textes qui expliquaient comment installer un antivirus, comment scanner son ordinateur. C'était vraiment le béaba, c'était nécessaire à l'époque. On avait aussi Memento, qui était un site d'information, un site de nouvelles, complètement fait maison. On a embauché des journalistes. On est allé chercher un journaliste de La Presse, André Bélanger, qui est devenu directeur de l'information chez nous, puis qui a recruté d'autres journalistes pour faire vraiment du journalisme numérique. On était les premiers à le faire. Et fait important, La Toile du Québec a été, dès le début, un site, un répertoire indexé professionnellement par des bibliothécaires. Les classements des sites se faisaient de la même façon que des livres sont classés dans une bibliothèque. Et on a embauché Stéphanie Simard, qui était bibliothécaire de formation, qui a une maîtrise en bibliothéconomie et qui a été la première employée de notre graphe et qui a monté littéralement la structure organisationnelle du répertoire. Puis après ça, un paquet d'autres sites, des acquisitions ont suivi, toujours au niveau médiatique. Donc, on était vraiment une start-up médiatique. Puis c'est notre graphe, avec tout ça, c'était surtout un partnership de quatre cerveaux extrêmement différents, avec des talents extrêmement différents, mais on avait une vision commune de laquelle on n'a jamais dérogé: augmenter l'achalandage. C'était ça le but de notre graphe, c'était augmenter l'achalandage. La valeur de notre graphe était dans son achalandage.
Bien sûr. Le plus de personnes qu'on est capable d'amener sur l'environnement média, le plus de valeur qu'on va être capable d'amener à l'entreprise. C'est tellement fascinant de discuter avec toi, Christian, parce que des souvenirs me viennent en tête. Mégagiciel, je me rappelle de ce site Internet-là, La Toile du Québec, je m'en rappelle et je suis convaincu que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ça doit également vous amener certains souvenirs. On va aller un petit peu plus loin dans le temps. On arrive en 1999 et là, vous devenez une entreprise publique, mais de manière un petit peu différente qu'on peut voir habituellement, on pourrait dire ça ainsi. Vous devenez public via une prise de contrôle inversée. Donc, pour situer un petit peu l'audience, c'est quand une entreprise privée va faire l'acquisition d'une entreprise publique et ultimement, elle devient publique. Peut-être que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail les raisons de ce mécanisme, pour quelles raisons vous avez pris cette approche-là. Également, son niveau de complexité comparativement à un IPO normal. Je serais curieux de t'entendre ici.
Parfait. En passant, le cerveau de cette opération-là, c'était vraiment mon associé Normand Drolet, qui est un comptable et un financier de formation avec l'aide de son autre associé, Marc. Mais tout ça, c'est arrivé par opportunisme. Et les gens souvent, on voit pas le making of d'une startup à succès, mais c'est très difficile. Puis le succès, il arrive pas du jour au lendemain. Au moment où on a pris la décision d'aller public, c'était une période extrêmement sombre pour notre graphe. On était à l'approche de devoir mettre à pied des dizaines de personnes. Et ça, pas beaucoup de gens savent ça. Et Normand faisait un mandat on the side pour dans sa famille et a rencontré des investisseurs qui voulaient justement virer une compagnie publique dans une des compagnies opérantes que Normand connaissait. Et pendant un souper, après deux jours de travail intensif, de monter des projections financières, Normand est toujours extrêmement bon à faire ça. Ben, les investisseurs posent la question à Normand: toi, tu fais quoi dans la vie? Puis tout ça. Puis il explique qu'il est associé dans notre graphe, La Toile du Québec. Puis ils disent: hey, c'est donc bien cool, on aimerait ça, nous autres, faire un digital play. Alors, ils décident de faire le reverse takeover avec nous plutôt qu'avec l'autre compagnie qui était, je pense, dans le domaine automobile. Et là, Normand nous arrive avec: écoutez, les gars, on aurait une gig d'aller public très rapidement, mais on fait pas la paye dans trois semaines. Fait que va falloir le divulguer. Puis on est allé rencontrer tous les employés, ceux notamment qui auraient été mis à pied, puis on leur a dit: soit on met à pied 20% des gens présentement qui font partie de la famille pour qu'on se rende dans six mois, où tout le monde prend un pay cut de 25%. Nous, les associés, on arrête de se payer au complet, puis notre burn rate nous amène aux six mois qu'on a besoin pour devenir public. Tout le monde, sans hésiter, a levé la main pour participer. On leur a dit qu'on leur remettrait dès le moment qu'on aurait une mise de fonds puis une rentrée d'argent. Mais tout le monde a décidé de rester en coupant son salaire de 25%. Puis ça a été, c'est moi qui ai dû faire cette annonce-là, c'est moi qui parlais toujours à l'équipe. Je t'avoue, Antoine, que c'est un des moments les plus difficiles de ma carrière de devoir prendre la parole pour annoncer ça, mais qui s'est transformé dans un des plus beaux moments de ma vie. quand tout le monde qui venait d'apprendre qu'il perdait 25% de sa paye nous ont applaudi pour dire merci de nous donner cette opportunité-là de continuer. Et ça a été ça, notre graphe. C'était une famille de fous passionnés. On était à l'époque une cinquantaine. Puis ça a été tellement beau. Et la prise de contrôle inversé est venue de là. On a pu acheter une compagnie boursière, une compagnie minière qui était cotée à la bourse, qui n'avait plus d'opération. Ça venait de contact de l'Abitibi, de Val-d'Or et de Rouyn. Normand était originaire de l'Abitibi. Et on a acheté Ressources Cristobal, Cristobal qui est le nom espagnol de Christophe Colomb. Et il y avait quelque chose de... tout le monde parlait de nous comme des colons du web, on colonisait le web. Il y avait vraiment quelque chose d'écrit dans le ciel peut-être avec cette compagnie-là. Et on a appelé la Bourse de Montréal. À l'époque, il y avait une bourse à Montréal encore. Puis on leur a parlé de notre projet qui n'existait pas. Le processus n'existait pas de faire une prise de contrôle inversée d'une compagnie inopérante. Et ils nous ont mis tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables pour pas que ça se fasse, mais à chaque fois, on réussissait à lever la ronde de financement, à attirer assez de signataires puis tout ça, jusqu'à tel point que, c'est ça, à l'automne 99, on est devenu la première dot-com publique au Canada. Avec le sigle, ça c'est un coup de génie de mon associé Marc Opti, le sigle WWW. Et il y avait une compagnie qui s'appelait Wolverine Worldwide qui avait arrêté ses activités 2 ans avant. Le nom devenait disponible là et Marc a sauté dessus. Alors, n'importe qui voulait acheter du web au Québec, il achetait du WWW. Et ça a été un coup de génie marketing. Encore une fois, presque accidentel. Et on est devenu public à l'automne 99. En octobre 99, on était rendu presque une centaine d'employés à ce moment-là. On avait une croissance très, très rapide après l'annonce de devenir public. Et on a fait le placement privé, je pense, à 35 cents, puis on a ouvert à 1,25 la première journée. Je me souviens qu'on s'est regardé les 4 associés. On était dans le bureau, on voyait ça live. Radio-Canada avait suivi pendant toute la semaine live. Radio-Canada avait un journaliste et un caméraman sur place à nos bureaux pour nous filmer, faire une espèce de petit docu-reportage de l'arrivée en bourse de notre graphe. Et je me souviens très bien d'avoir regardé Normand dans les yeux, puis il me regardait, puis il dit « ça se peut pas ». Il dit « les gens nous accordent beaucoup trop de valeur, on vaut pas ça ». Et le 1,25, 6 à 8 mois plus tard, était rendu à 20,70. À ce moment-là, la compagnie valait 2 milliards en valorisation boursière.
2 milliards en valorisation boursière. Mais
2
là,
milliards.
OK, on va essayer de situer un petit peu l'audience. On est en 99, on est juste avant l'explosion de la bulle tech. On est à quelques mois. Ouais. Avant de rentrer là, parce que ça va être un passage excessivement fascinant de l'entretien, j'aimerais juste te poser une petite question. Tu mentionnais difficile de faire le payroll, on est dans un contexte économique plus complexe. Mm-hmm. Modèle de revenu en 1999 de NetGraph. Okay. On vend quoi? On vend du placement publicitaire sur l'achalandage de nos sites web, on a de l'affiliation.
Essentiellement du placement publicitaire. L'affiliation, le concept d'affiliation n'existait pas encore à cette époque-là. C'est arrivé après ça. Ça aurait été une maudite bonne idée d'y penser en 1999. Mais on avait un modèle publicitaire, commandite et publicitaire. La toile est née. NetGraph est née en fait avec un investissement publicitaire de Bell Canada qui nous avait appelé en 96. C'est avec cet argent-là qu'on a fondé la compagnie qui nous offrait 100 000 $ de commandite pour mettre le logo propulsé par Belle Solution d'affaires sur toutes les pages de la Toile du Québec, un petit logo. Et on a offert la même fleur à notre hébergeur Internet, M-Link Internet à l'époque, piloté par Feu Pascal Gosselin, qui nous a quittés tragiquement là, il y a quelques années. Et lui avait dit, donnez-moi 0 $, je vais vous héberger gratuitement, mais mettez le petit logo propulsé, hébergé par M-Link Internet au bas de chaque page. Et il m'a avoué 5 ans plus tard qu'il a vendu sa compagnie des dizaines de millions de dollars sur la base que ce logo-là était en bas. Parce que quand les investisseurs ont fait la due diligence, il a dit, on héberge le plus gros portail au Canada, avez-vous d'autres questions? Et c'est un des rayonnements exotiques que notre graphe a eu dans l'écosystème québécois. Et donc c'est ça, on faisait pas la paye, c'était difficile, on n'avait pas beaucoup de revenus, les revenus étaient publicitaires, commanditaires aussi. On avait une petite business de conseil numérique puis fabrication de sites web. On a notamment, c'est nous qui avons fabriqué, conçu le premier site Internet de la Société Radio-Canada pour le compte du réseau des sports. Pas le réseau des sports, mais la section sport de Radio-Canada. On a fait le site Radio-Canada Sport en 97 et ça a été un hit incroyable. C'était une bibliothécaire a fait le classement de l'information. On a travaillé énormément avec Bruno Guglielminetti, que tu connais, qui était à l'époque, il était même pas directeur de l'information encore, mais c'était Monsieur Internet chez Radio-Canada. On s'était liés d'amitié, puis il m'avait dit, Christian, peux-tu venir nous aider? Fait que c'est Christian Guy, le chummy de Bruno Guglielminetti, qui est allé rencontrer Bruno et ses patrons à Radio-Canada, puis qui leur a dit, ben oui, on peut faire un site web relativement facilement. On a travaillé avec les journalistes, enseigné aux journalistes comment faire des recherches sur Internet, comment présenter le contenu de manière numérique. C'était des gens de télévision et de radio. Ils avaient aucune idée comment faire sur le numérique. Puis on l'a fait ensemble avec eux. Je ne prends aucun crédit du travail de journaliste qui a été fait par Radio-Canada Sport, mais on a participé humblement à l'arrivée de Radio-Canada sur Internet. Puis après ça, ben, le test était fait. Puis ils ont décidé de se lancer puis de lancer tout le reste. On avait fait la même chose avec Le Devoir aussi. Fait que ça a été c'était vraiment ça nos sources de revenus du service conseil, mais c'était surtout publicitaire.
Surtout publicitaire. Bon, on revient à l'endroit qui, à mon avis, doit fasciner notre audience. L'entreprise, à un certain point, vaut 2 milliards de dollars. Ouais. On est dans le volet fou de la bulle technologique. Toutes les entreprises ont des valorisations totalement incroyables. J'imagine que vous en rendez compte là, que ça peut pas durer.
On se rend compte à deux égards. D'une part, on a ça donne rien de s'en cacher. On a eu cette euphorie-là de penser à un moment donné que c'était une croissance infinie, là. Je veux dire, c'était naïf de penser ça, mais on s'est dit, voyons, il y avait aucun signe de fléchissement. Et il est même arrivé à un moment donné, quand on était public, une valorisation de 2 milliards, on avait des revenus de 6 millions en passant, là, 6-7 millions. Là. On était très loin d'avoir, en termes de revenus, une fraction de cette valorisation-là. Mais le marché s'était emballé et on était la seule option pour quiconque au Canada voulait acheter du numérique. On était la seule option. Alors, ils achetaient du Netgraph. Incidemment, en passant, Google, dans ses tout débuts, Google est arrivé dans le marché bien après nous. Mais en 98 ou 99, les deux gars, Sergey Brin et Larry Page, ont communiqué avec nous pour savoir comment prendre le marché canadien.
Hey, c'est incroyable. C'est incroyable quand tu y penses.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas moi qui leur ai parlé, c'est mon associé Yves qui leur a parlé. Et avec Marc, je pense, justement. Et on leur avait dit, ben écoutez, les gars, nous, on aime bien votre petit moteur de recherche parce qu'il était moins performant encore que AltaVista, InfoSeek et Hotbot. Mais on voyait beaucoup de potentiel. Puis moi, j'avais commencé à donner des informations sur l'émergence de Google puis tout ça. On savait que les autres avaient une approche totalement différente des autres moteurs de recherche. On aimait énormément le fait qu'ils avaient travaillé aussi avec des bibliothécaires. On leur a dit, ben écoutez, nous, on est limité au Québec, mais si les gens veulent poursuivre la recherche dans le reste du Canada, en anglais ou en français, on faisait un lien vers Google. Fait qu'il y avait le moteur de recherche, la toile, tu faisais ta recherche. Si tu trouvais pas ce que tu cherchais, tu pouvais poursuivre ta recherche sur Google. Et je pense qu'on les a aidés un gros 3 jours parce qu'eux autres, ça a parti comme une traînée de poudre, leur affaire, et ils sont devenus extrêmement populaires très rapidement. L'investissement de Sequoia Capital, bien sûr, les a propulsés en avant. Et ils ont, comme on avait deviné, ils ont littéralement pris le marché mondial très rapidement. Mais ça, c'est une petite anecdote, je trouve, cute, parce qu'on a comme aidé les deux gars à se partir au Canada. Encore une fois, je prends aucun crédit pour ça parce que c'est pas vraiment ça qui est arrivé, mais ça avait l'air de ça. Tu me parlais, excuse-moi, j'ai perdu un peu mon fil.
Donc, si on revient, on est dans l'euphorie de la bulle technologique. La bulle n'a pas explosé encore. Elle est proche d'avoir explosé, mais elle est en pleine euphorie. Qu'est-ce qui se déroule? Est-ce qu'il y a des intérêts d'acheteurs externes? Est-ce qu'on vaut vraiment 2 milliards? Comment que les discussions internes, qu'est-ce qui se déroule en coulisses ici?
Ben, déjà, le fait qu'on soit devenu public, toute l'attention médiatique était braquée sur nous. Et quand on dit attraction médiatique, on parle de la presse, Journal de Montréal, Vidéotron. Alors, ils sont tous tournés vers nous. Québécois a toujours voulu acquérir la toile du Québec à prix de peau de chagrin. Ils n'ont jamais réussi, mais nous, on est en train de faire une une négociation avec Vidéotron, avec la famille Chagnon.
Et juste pour être certain de le mentionner avec notre audience, Vidéotron n'appartenait pas à Québécois à ce moment-là. C'est important de le dire.
Tout à fait. C'était une compagnie privée. C'était un fleuron québécois. Nous, on décide de s'associer avec eux et d'acheter le portail Infinity qui était produit par Vidéotron. On est devenu à ce moment-là un portail immense qui était à des années-lumière de ce que Bell avait fait. Donc, on était de loin le plus gros portail. Et dans ces négociations-là, dans ces tractations-là, ben Vidéotron nous a dit, nous, on veut fusionner avec Rogers Media en Ontario. Et nous, on avait tout préparé pour... On rentrait avec Vidéotron, Vidéotron rentrait chez nous, Vidéotron se ramassait à faire une prise de contrôle inversée comme nous, on avait fait avec la compagnie minière. Et on s'en allait avec Rogers. On avait un super beau projet national avec des visées internationales avec Rogers Media et Québécois avec Pierre-Carl Péladeau est allé voir la Caisse de dépôt pour dire on peut pas perdre un fleuron québécois comme ça, on va les racheter. Fait qu'ils ont fait une offre hostile sur le stock de Vidéotron qui était transigé à la bourse. L'offre hostile a fonctionné. Les actionnaires ont décidé de vendre à Québécois. Et c'est comme ça que Pierre-Carl s'est ramassé propriétaire de la toile. C'est en faisant une acquisition par offre hostile sur Vidéotron. Et nous, à ce moment-là, on avait décidé qu'on quitterait. Dès le moment que la transaction n'a pas passé avec Rogers et que ça passait avec Québécois, les quatre associés, on a donné notre démission, mais on a quitté. Fait que nous, on a quitté techniquement avant l'implosion de la bulle. L'implosion de la bulle, c'est fait sans nous. On avait déjà quitté. On était déjà en train de faire autre chose. Moi, je suis le dernier qui a quitté en février 2001. Et mes associés ont quitté décembre 2000 ou janvier 2001. Je me souviens pas exactement des dates. Ça fait quand même 23 ans. Mais c'est comme ça que ça s'est passé.
Bon, et juste pour être certain, l'achat de Québécois avec Pierre-Carl Péladeau se fait. À ce moment-là, qu'est-ce qui se déroule? Qu'est-ce qui vous appartient? Qu'est-ce qui vous revient dans cette acquisition-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est une sortie grandiose? Est-ce que finalement, ça a été plus complexe? Je serais curieux de t'entendre ici.
En fait, moi, que j'ai dit, j'ai été le dernier à partir. J'en ris aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas drôle. Ça n'a pas du tout été une sortie grandiose. Ça a été une sortie forcée. Mes trois associés, eux, ont été presque forcés de quitter. Ils avaient des rôles plus importants que le mien. J'avais 29 ans à l'époque. Et moi, ils m'avaient carrément oublié. Ils avaient oublié qu'il y avait un quatrième larron qui travaillait encore dans un autre édifice. On avait trois adresses. Et je suis allé donner ma démission de ma propre compagnie à quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc c'est ça, j'étais le dernier à partir et il y a pas eu d'achat. Nous on n'a pas eu de chèque de personne parce que ils ont acheté le stock que Vidéotron détenait publiquement. Fait qu'ils ont simplement acheté une majorité des actions et nous on a gardé nos certificats d'action qui étaient transgés publiquement puis on en a vendu au fur et à mesure qu'on avait le droit de les vendre. Notre stock était escrowed, fait qu'on pouvait pas vendre plus de 10% de nos actions. Fait qu'on a vendu ce qu'on pouvait vendre tranquillement. On s'en est bien tiré. Mes associés qui a rendu à cette époque-là avaient plus d'équité que moi en ont largement profité. Puis c'est tout à leur honneur. Moi, j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps, mais j'ai commencé notre graphe, j'avais 25 ans avec une dette d'études de 30 000. Je suis sorti de notre graphe avec quelques millions. Fait que j'en suis sorti gagnant quand même à 29 ans.
On s'en tire bien.
Mais donc, pour résumer, c'est ça, pour résumer, la sortie s'est faite un petit peu côté jardin, sans tambour ni trompette. Et Québécois a pris le contrôle des activités numériques de Vidéotron, dont notre graphe. Tant qu'à moi, je pense qu'ils auraient pu faire mieux, mais je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu parce que la bulle a effectivement implosé l'année suivante.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.g7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Et je serais curieux de t'entendre, Christian, ici, qu'est-ce qui t'a déplu? Parce que, bien entendu, ça avait l'air clair dans vos têtes que vous n'alliez pas vous travailler avec Québecor. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être des soucis entre les deux entreprises. Qu'est-ce qui était clair dans vos têtes comparativement, peut-être, à ce que Rogers pouvait présenter?
C'est simplement, c'est pas une critique du style de Québecor. On n'était pas d'accord avec l'approche qu'ils avaient des médias numériques. Ils voulaient transformer les médias numériques en médias traditionnels. C'était à l'époque le buzzword, c'était la convergence des médias. Eux, ils voulaient avoir une convergence des médias, mais c'était une convergence vers les médias traditionnels de Québecor. Alors que nous, on parlait de divergence des médias. On voulait ouvrir les médias, puis les démocratiser, puis en faire en sorte que les gens puissent avoir des médias différents. Un peu comme les médias sociaux sont
bien
aujourd'hui.
Sûr,
mais on est presque 20 ans avant les médias sociaux, donc avant la grosse bulle des médias sociaux. Fait qu'on ne pouvait pas prévoir ça non plus. Fait qu'on avait juste une mésentente sur philosophique plutôt. Alors, en tout cas, pour ma part, je peux pas parler pour mes trois autres associés, mais pas pour ma part, c'est une divergence philosophique. Puis on a juste décidé de pas jouer dans ce carré sable-là, tout simplement. Puis on avait assez d'argent pour faire autre chose. Moi, j'ai parti une autre start-up tout de suite après. On est parti avec des gens qu'on connaissait, qu'on avait appris à côtoyer dans les cinq années qu'on était là. Puis ça s'est fait de manière extrêmement tranquille. Et la plupart des gens, des employés sont restés au sein de NetGraph, qui était maintenant au sein de Québecor, au sein de Vitoro, qui était maintenant au sein de Québecor. Puis ça a quand même eu une très grande croissance. Moi, quand j'ai quitté, la compagnie que j'ai fondée à 4 était rendue à 400 employés.
Wow.
En 5 ans. Donc, on a fait 4, 25, 50, 125, 250, 400.
La roue est enclenchée, là. Ça s'arrêtait plus.
Oui, oui, exactement. Mais là, c'est ça. Québecor a eu les problèmes que nous n'avons pas eu, c'est-à-dire a dû négocier avec l'implosion de la bulle.
Comment tu regardes ça de loin? Parce que j'imagine que tu devais suivre ça là, au quotidien tout de même, de te dire qu'est-ce qui est en train de se dérouler.
Oui, j'étais encore actionnaire.
J'étais encore largement
actionnaire de la compagnie. Ma valorisation personnelle décroissait de jour en jour parce que l'implosion de la bulle faisait que le stock baissait. Mais j'avoue que on s'en est pas occupé tant que ça. Une fois qu'on a quitté, on s'en est pas occupé tant que ça. J'ai chialé privément et publiquement à certains égards, mais on s'en est pas occupé tant que ça. Moi, ce qui m'irritait le plus, c'était le traitement de certains de nos employés. Il y a des gens qui ont été congédiés sans notice. Ils sont arrivés un matin dans l'édifice que moi j'étais et la porte était barrée. Il y avait une notice genre « Allez à tel édifice, on vous attend avec votre chèque ». Tu sais, c'est comme, pour nous, c'était des gens, on connaissait leur famille, on connaissait leur histoire. Ces gens-là qui se sont fait mettre à pied tout simplement parce qu'on fermait ce département-là sans savoir qui était dedans. Ça, c'est des choses qui m'ont irrité, qui m'ont blessé en fait un peu. Mais it's just business. Alors moi, j'ai toujours focusé sur les gens. Puis les gens qu'on aimait sont restés proches de nous, surtout Yves et moi qui avions développé une relation particulière avec eux. Puis beaucoup de ces gens-là ont abouti finalement à la presse. Et j'ai comme une petite fierté paternelle. La presse plus, la version tablette de la presse, a été largement développée par tous des ex-NetGraph. Ils sont tous ramassés là. Ils ont développé le concept de la presse plus. Le CTO était un développeur qui était chez nous. C'est une petite fierté que le rayonnement des ex-NetGraphiens a continué à faire rayonner le numérique au Québec, parce que la presse plus, c'est quand même un très, très beau succès en termes médiatiques, là.
Et parle-nous un petit peu de l'après. Donc, j'imagine que tu as vécu des montagnes russes avec tout ce qui s'est déroulé au niveau des acquisitions. Ça a dû être un petit peu plus tranquille. Par la suite, tu as parlé de la fondation d'une nouvelle start-up. Comment se sont déroulées les années qui ont suivi, les années 2002, 2003, 2004, 2005? Où ton temps est allé?
Ben, comme j'ai dit précédemment, moi, j'ai créé la toile, j'avais 25 ans. Fait que j'étais encore un gamin qui sortait de l'université. Mais j'ai eu le privilège d'avoir des associés beaucoup plus vieux que moi, qui avaient 15 ans plus vieux que moi, puis qui avaient une certaine sagesse. Puis quand j'ai quitté notre graphe, on était encore, on avait des valorisations personnelles extrêmement élevées encore. Fait qu'on était un petit peu sur le nuage de « c'est pas grave, on est intouchable ». C'est après ça qu'on a été personnellement impacté par la baisse du stock puis tout ça. Mais moi, je suis parti avec trois autres gars qui travaillaient avec moi chez NetGraph, puis on a parti une start-up pour aider les entreprises à collaborer numériquement. Mais on était 10 ans trop tôt. On était 10 ans avant OpenOffice, avant Google Docs, avant même Basecamp. Et cette start-up-là a pas pogné parce qu'on n'était pas capable d'imposer la vision comme la toile. On avait imposé notre vision avec l'achalandage. C'était vraiment trop tôt. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai appris énormément. Fait que moi, de 2001 à 2005, c'est ce que j'ai fait dans une autre start-up. On a financé ça avec des jardins capital de risque. On a monté ça le plus haut qu'on pouvait pour se rendre compte que ça fonctionnait pas. Et l'espèce de spirale, downward spiral, comme on dit en anglais, là, c'est passé à moi en 2005, pas en 2001, au moment de quitter notre graphe. Parce que là, la bulle était vraiment éclatée. Et là, il y avait de moins en moins de marché pour ça. Mais, je regrette rien. Moi, comme j'ai dit tantôt, je suis rentré dans notre graphe à 25 ans avec une dette étudiante de 30 000, puis je suis sorti avec quelques millions et énormément, d'expérience. J'ai développé personnellement une expertise assez unique. J'ai vu les succès, j'ai vu les échecs des startups numériques. Ça me permet aujourd'hui d'exercer mon métier de mentor et conseiller de gens qui veulent faire la transformation numérique parce que je l'ai vécu. Je suis pas juste un témoin privilégié. J'ai été un acteur privilégié dans cet écosystème-là. Fait que je les ai vus et j'ai surtout vu l'évolution des outils. J'ai vu l'arrivée de Real Audio puis qui commence à transformer la radio. J'ai vu l'arrivée de YouTube qui a complètement transformé la façon dont on consomme le contenu vidéo. Moi, aujourd'hui, en 2023, je n'écoute plus la télé depuis des années. Je suis abonné à des centaines de chaînes YouTube et c'est comme ça que je consomme du contenu et je pense que beaucoup de gens font la même chose. Très bien. Juste pour terminer, vas-y. Revenir à ta question originale, tu parlais de ça, ça a peut-être été plus calme après. Ma vie n'a jamais été calme. Donc, j'ai jamais eu de calme dans ma vie. C'est vrai qu'après les montagnes russes de notre graphe, on peut penser que ça s'est accalmé, mais j'ai reparti une autre start-up. J'ai aidé plein d'autres entreprises à faire. Moi, je suis pas capable de vivre dans le calme. Donc, juste pour finir de répondre à ta question, ça n'a pas été calme après non plus.
Où ton temps va aujourd'hui? Peut-être parle-nous des projets dans les 5-10 dernières années que tu es le plus fier d'avoir travaillé. Je serais curieux de voir où est-ce que ton instinct est allé, où est-ce que tu as voulu t'impliquer, quelle catégorie d'entreprise t'a inspiré?
Moi, je suis vraiment, j'ai une approche, je suis un nerd, je suis un geek, j'ai une approche scientifique. Je suis extrêmement personnellement intéressé par l'évolution technologique qu'on vit de manière extrêmement accélérée. Les derniers mois avec l'émergence des outils comme ChatGPT ont été, moi ça fait 20 ans que j'étudie ça, mais les deux derniers mois ont été révélateurs de progrès incroyables qui je pense vont être plus importants, plus profonds que l'arrivée d'Internet dans nos vies. Je pense que ça va aller encore plus loin. Puis moi, je le vois très positivement. Je les vois, les côtés négatifs et les enjeux qu'on a en avant de nous. Mais je le vois de manière extrêmement positive. Moi, mon temps aujourd'hui est passé à aider des gens de mon âge, mais des plus jeunes aussi, à se lancer en affaires au niveau du numérique. J'ai lancé un cabinet conseil avec mon associé Maude, qui est beaucoup plus jeune que moi. Alors, elle a l'âge que moi j'avais quand j'ai parti notre graphe. Alors, elle est une « digital native ». Elle a une toute autre vision des outils numériques que la mienne. Moi, j'amène beaucoup d'expérience. Elle amène beaucoup de connaissances et de vivacité. Puis à deux, on aide les entreprises à se lancer. On a travaillé présentement sur un projet extrêmement novateur dans le domaine de la santé que je peux malheureusement pas discuter aujourd'hui parce que le lancement est pas fait, mais c'est vraiment un projet de numérisation de certaines portions des soins de santé à domicile et on est extrêmement fiers de ce qu'on a fait là. On a aidé beaucoup d'entreprises aussi à comprendre comment faire les affaires sur Internet. Le commerce électronique, ça a l'air simple. Quand tu regardes le volet marketing de Shopify, tout le monde pense que c'est facile, mais il y a tellement de volets à réfléchir. tellement de choses que les entrepreneurs, surtout ceux qui ont fait du retail en traditionnel, savent pas que ça se fait dans le numérique. Puis ceux qui ont fait seulement du numérique, mais qui ont jamais fait de retail, savent pas non plus toutes les implications qu'il faut avoir au niveau des chaînes de distribution, de la chaîne d'approvisionnement. Et mon rôle, moi, aujourd'hui, c'est de conseiller les gens de faire en sorte qu'ils fassent pas les erreurs que j'ai déjà faites, puis qu'ils répètent les bons coups que j'ai faits le mieux possible. J'essaie de conseiller. Moi, je les appelle mes mentorés. J'essaie de les conseiller le mieux possible là-dedans.
Fantastique. Christian, avant de parler de questions peut-être un petit peu plus personnelles, comment tu vois le futur des technologies? Parce qu'effectivement, tu dis que tu le vois de manière très positive, mais soyons très honnêtes ici. Habituellement, l'accélération se fait sous des fréquences annuelles. C'est-à-dire que le iPhone est arrivé, quelques années plus tard, le App Store est arrivé, quelques années plus tard, l'intégration mobile est arrivée, et on pouvait vivre ça sous des fréquences annuelles aux 2 ans, aux 3 ans. Au moment où on se parle, la technologie accélère et avance à une vitesse en termes de jours. On a vu ChatGPT arriver, qui, d'ailleurs, soyons très honnêtes, on vient de le voir, mais ça, c'est 10 années de travail derrière avec OpenAI qui a été fait et que beaucoup d'organisations, d'ailleurs, sont très investies en intelligence artificielle. Quelques semaines plus tard, on voit l'auto-ChatGPT qui littéralement est en train de se donner une conscience pour créer plusieurs fonctions. Donc là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle l'AGI, le Artificial General Intelligence. À quelle vitesse tout ça va et comment tu vois le futur? Parce que ça change à la vitesse lumière au moment où on se parle.
C'est une excellente question et tu tombes dans mon champ d'intérêt et d'expertise aussi. Si tu permets, pour commencer ma réponse, je vais reculer juste un petit peu en arrière, c'est-à-dire environ 7000 ans. Il y a 7000 ans, les humains ont inventé la roue. Mais pas beaucoup de gens savent que la roue a été inventée dans un contexte de faire un tour de poterie. C'est un tour à poterie. La roue était couchée sur le côté puis on la faisait rouler pour faire de la poterie. Pourquoi on l'a inventé pour ça? Parce qu'il y a 7000 ans, ça a commencé la grande sédentarisation des humains dans les grandes villes et on avait besoin d'énormément de poterie pour conserver l'eau et les aliments, d'où l'expression « eau potable » en passant. Donc, la poterie était au cœur des préoccupations des humains, des nouveaux citadins. L'invention de la roue pour un chariot, ça a pris 300 ans, 3 siècles, 300 ans pour que quelqu'un pense prendre la roue, la mettre de côté, mettre un bout de bois dans le milieu puis fasse rouler un chariot avec. Donc, comme tu dis, l'accélération, elle est extrêmement logarithmique, mais au début, des innovations technologiques, ça se faisait sur des siècles. Et c'était de plus en plus abordable. C'était encore abordable au cerveau humain. Je pense qu'aujourd'hui, les évolutions technologiques, ça comprend le médical, ça comprend la technologie numérique, même ludique, dépassent largement la capacité cognitive des humains qui la consomment. Je pense qu'il y a 1 à 2 % des humains qui sont capables de comprendre comment faire un smartphone, comment fabriquer un réseau social, tout ça. En passant, je suis à peu près convaincu qu'il n'y a aucun humain qui vit sur Terre aujourd'hui qui est capable de fabriquer un grille-pain tout seul from scratch. Il y a tellement de composantes complexes dans un grille-pain, et là, je parle même pas d'un smartphone. Donc, pour revenir à ton point, revenons 7000 ans plus tard à aujourd'hui, la courbe, elle est logarithmique. Et regardons simplement ce qui s'est passé avec la pandémie et le développement des vaccins. Des vaccins, ça prenait des années et des années à développer. On a développé un vaccin en quelques mois, disons 1 an pour arrondir. Mais c'est pas vrai que le vaccin a été développé 1 an. Le vaccin a été développé en 2 semaines. On a pris 1 an pour faire des tests pour s'assurer qu'on tuerait pas personne avec. On a raccourci le délai énormément parce que besoin oblige, il fallait avoir un vaccin rapidement. Puis on a coupé les coins ronds pour le faire, puis je pense qu'il fallait le faire. Mais le vaccin a pris 2 semaines. Il a pris 2 semaines parce qu'on avait un algorithme d'intelligence artificielle qui séquençait le génome des ingrédients qu'on avait besoin puis qui a fait les simulations. Puis on a dit, OK, c'est ça qu'il faut faire, puis maintenant on va le tester. Alors, quand on arrive avec ChatGPT, qui a l'air d'arriver de nulle part, mais comme tu l'as très bien dit, ça fait 10 années que les gens travaillent là-dessus. En fait, plus que ça, même de manière intensive sur les grands ensembles de textes comme ChatGPT. Ça a l'air d'arriver de nulle part, mais ça fait longtemps qu'on pense à ça. Ça fait longtemps qu'on rêve à ça. Ça fait longtemps qu'on pense à ça. Et cette courbe logarithmique-là, c'est presque un mur aujourd'hui et ça va juste monter par en haut. Et là, on n'a même pas encore parlé des progrès qu'on fait au niveau de la physique quantique et de l'ordinateur quantique qui va littéralement multiplier par 1 milliard la capacité de processing des ordinateurs. Alors, on est au tout début d'une très grande révolution. Moi, je pense, comme humaniste, qu'on est en train de faire évoluer artificiellement la race humaine. Mais beaucoup de personnes vont s'inscrire en faux par rapport à ça en disant qu'on est peut-être en train de dénaturer l'humain aussi. Il y a des risques là-dessus. Il y a des risques importants que je pose.
C'est des arguments philosophiques à un certain point. Je pense que tu l'as très bien dit, il y a une amélioration évidente pour le système de santé, pour de l'efficacité sur un paquet d'aspects. Et on l'a vu dans le passé que souvent l'émergence de nouvelles technologies crée des nouvelles industries, crée des nouvelles économies. Définitivement, exactement. C'est vu et revu. Le point est, et c'est l'argument peut-être de l'autre côté en ce moment, comme tu as utilisé le terme, c'est très profond. C'est peut-être la première fois qu'une technologie va avoir une conscience. Et c'est cette conscience qui, pour énormément de gens, fait très peur. Pour, je crois, des raisons évidentes, parce que cette conscience-là ne sera pas simplement plus intelligente que nous. Elle est en train d'être des milliards de fois plus intelligente que l'être humain. Et cette conscience-là, on est en train de se dire, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste?
C'est ça, mais c'est super intéressant, mais moi, je préfère parler, c'est pas tant que cette intelligence-là artificielle, soit, j'aime pas parler de gradation ou de hiérarchie. Je ne pense pas qu'elle est supérieure. Je pense qu'elle est fondamentalement différente. Et elle est différente à deux égards. D'une part, dans sa rapidité de computationnelle. Un ordinateur et une intelligence artificielle va computer extrêmement rapidement. On l'a vu avec Kasparov en 96-97 quand il a perdu contre des Blues. Ça n'a pas été la fin des échecs. Au contraire, les échecs ont pris encore plus d'importance parce que tous les grands maîtres aujourd'hui étudient avec les ordinateurs. Regarder une game entre deux ordinateurs, c'est moi, je suis un joueur d'échecs, j'ai enseigné les échecs pendant longtemps, donc je peux en parler longtemps ça aussi, mais personne est intéressé à regarder deux ordinateurs se battre un contre l'autre aux échecs. La game est extrêmement plate, ça finit en partie nulle 9 fois sur 10. Mais le fait que les humains qui sont des élites, comme par exemple Usain Bolt au 100 mètres était au pinacle de son art, Garry Kasparov l'était en tant qu'humain au niveau des échecs, ça l'a amené la génération suivante à tellement plus de connaissances en utilisant l'ordinateur. D'une part, on a fait la même chose au Go, on est en train de faire la même chose avec le poker, puis on a fait la même chose avec l'écriture. Pour chaque copywriter qui va peut-être perdre sa job à cause de ChatGPT, il y a 14 autres personnes qui vont exercer des métiers dans 1 an, 2 ans, 3 ans qui n'existent même pas aujourd'hui.
Bien sûr.
Quand on a inventé l'avion au début du 20e siècle, les chefs de train n'ont pas perdu leur job, ils ont continué à travailler, puis il y a des gens qui sont devenus des pilotes d'avion. Fait que moi, je vois ça extrêmement positivement, toujours en disant, il y a des risques. Les risques, en fait, ils sont pas liés à la technologie, ils sont liés à l'utilisation humaine de ces technologies-là. Qu'est-ce qu'on va en faire? On a inventé la poudre à canon pour faire des feux d'artifice et regardez ce qu'on en a fait.
C'est exactement. C'est l'utilisation et comment ces technologies sont entraînées, bien entendu. Ce sera des discussions qui vont suivre pendant très longtemps. Mais force est d'admettre que ça a beaucoup de bons. Mais comme tu le dis, c'est les technologies les plus puissantes qui n'ont jamais existé et qui accélèrent comme jamais. Assurons-nous qu'elles soient au service de choses qui sont importantes pour tous. Et je pense que ce sera ça l'objectif.
Tout à fait, et d'essayer de les rendre accessibles au plus grand nombre, parce que comme toutes les technologies de toute l'histoire de l'humanité, ce sont les bien nantis qui en ont profité en premier. Alors, il y a un risque éthique d'avoir, par exemple, des développements de vaccins ou même de médicaments qui pourraient modifier notre ADN, mais que ce serait pas tout le monde qui aurait accès. On le vit présentement avec les médicaments. Il y a des pays d'Afrique qui n'ont pas accès aux médicaments que nous avons. Pendant la pandémie, on l'a vécu. La Russie n'avait pas accès aux mêmes vaccins que nous. L'Europe de l'Est, en général, n'a pas eu accès aux mêmes vaccins que nous. J'ai des amis en Hongrie qui ont attendu 1 an de plus que moi avant d'être vaccinés. On vit ces inégalités-là déjà aujourd'hui. Donc, quand j'en vois des potentiels, ça ne m'émeut peu, mais je suis quand même capable de dire que c'est un risque social. Et je pense que ce qui est le plus dangereux présentement sur la planète, c'est pas l'intelligence artificielle ou l'ordinateur quantique, c'est le béaba de cette pourriture de médias sociaux que nous avons. On a inventé ça pour faire quelque chose de bon et je pense que c'était probablement notre moins bonne idée de lancer ça parce que au lieu de démocratiser l'information, on est peut-être en train de détruire la démocratie avec ça. Puis les États-Unis en sont la preuve à tous les jours avec cette polarisation cette polarisation avec les ce qu'on appelle les filter bubbles où chacun n'a que ses filtres personnels et si t'es républicain, tu ne vois que des postes républicains. Si t'es démocrate, tu ne vois que des postes démocrates puis tout le monde s'aillit la face, personne se rejoint au milieu. Ça, c'est un risque beaucoup plus grand à plus court terme que l'intelligence artificielle.
Ouais, ben la consommation d'informations, effectivement, c'est un des débats qui fait beaucoup de bruit présentement. Je terminerai peut-être, on revient un peu au niveau affaires, quelques questions personnelles. Des livres business, est-ce que tu en as lu et si oui, lesquels t'ont marqué?
je l'ai dit, je suis un nerd, je suis un littéraire de formation, donc je lis énormément. Moi, j'ai envie de le dire sous forme de conseil. Il y a un livre que n'importe qui est en affaires ou qui traite avec le public doit lire. Moi, je le lis une fois par année en passant. C'est « How to Win Friends and Influence People » de Dale Carnegie. Ce livre a changé ma vie. J'étais au secondaire. J'ai un professeur de français qui m'avait fait lire ça. Et depuis que je suis en affaires, je le lis une fois par année, ne serait-ce que pour me remémorer des choses.
C'est un livre
du 20e siècle. Donc. Bon, parfait. Et il y a une version maintenant, améliorée pour, et qui rajoute « In the digital age ». Fait que ils ont quand même fait quelque chose de bon. Et mon livre que je suis en train de lire présentement, c'est l'auteur Steven Johnson, qui est un vulgarisateur scientifique qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle « Where Good Ideas Come From ». Et il explique comment les bonnes idées, et ça rejoint ton point de justement cette croissance logarithmique de la technologie, comment des technologies comme la flûte a donné l'ordinateur aujourd'hui, comment le métier à tisser a donné l'ordinateur quantique. Et il fait des liens et des parallèles incroyables. C'est fantastique. Donc, ce sont deux livres, je pense à regarder si on est intéressé au progrès technologique là, et à comment faire des affaires.
Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu?
Je suis probablement la pire personne. Moi, j'ai besoin j'ai un TDAH, donc j'ai besoin de double stimulation. Donc, l'audio uniquement me va pas et le visuel uniquement va pas. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts vidéo sur YouTube. Mon préféré, mon coup de cœur des deux dernières années est le podcast de Lex Fridman, qui a reçu, je pense, tous les grands penseurs et les grands scientifiques sur la planète passent devant son micro. Cet homme-là m'impressionne personnellement, mais ses invités encore plus. Donc, Lex Fridman, un homme à découvrir. Et c'est un gars qui est extrêmement neutre dans son approche. Il rencontre parfois des gens qui saillissent la face en public, mais il les rencontre séparément. Et un autre podcast que j'ai découvert via la newsletter, c'est le Lenny's Podcast. Lenny Podcast, il y a sa newsletter aussi, qui fait de manière beaucoup plus humble, mais qui parle de technologie et d'entrepreneuriat en technologie. À chaque semaine, il y a un nouvel invité qui vient parler des enjeux chez Google ou chez Apple ou d'autres compagnies, d'autres startups. Et je trouve ça très intéressant. Donc, sinon, si c'est pas des podcasts, moi, j'écoute énormément de livres Audible ou des résumés de livres avec Blinkist dans mon auto. Ou si je prends une pause à Mac dans l'après-midi, mes écouteurs vont écouter des résumés de livres ou des livres au complet Audible. Je suis moins podcast que YouTube et je suis en plus livre audio que podcast.
Et je te demanderais, routine, à quoi ressemble ta routine maintenant?
Ben moi, je suis un ancien athlète d'élite. J'ai fait du saut à la perche dans une autre vie et j'ai la même routine depuis l'âge de mes 15 ans. Je commence à chaque matin et à chaque soir, je fais la même routine. Je fais une visualisation de ce que j'ai à faire aujourd'hui. Quand je me lève le matin, je trouve la motivation pour le faire avec donc visualisation, motivation, action et rétroaction à la fin de la journée. Donc, à la fin de la journée, avant de me coucher, je fais le même exercice, mais à l'envers, en pensant à ce que j'ai à faire le lendemain. Ça m'évite pas de procrastiner. Je suis un procrastinateur notoire, mais ça me permet au moins de faire du ménage dans ma procrastination.
Fantastique. Christian, ça a été totalement fascinant de discuter avec toi. L'histoire de la toile du Québec. Tout le monde, du moins de mon âge et de ton âge, en ont entendu parler, l'ont vu de près. C'était fascinant d'en apprendre un petit peu plus. C'est également très intéressant d'avoir ta vision sur le futur de la technologie. Si on veut en apprendre un petit peu plus sur toi, où est-ce que c'est le plus facile de te rejoindre? Est-ce que tu es sur peut-être LinkedIn? Où est-ce qu'on peut te retrouver?
LinkedIn, c'est mon... LinkedIn, c'est la façon la plus simple de prendre contact avec moi. Sinon, tu mettras mon adresse courriel dans la description de l'épisode. Ça va me faire plaisir de répondre aux gens. Je suis quelqu'un de très généreux de mon temps. Si je peux aider, je le fais. Et la seule promesse que je fais à mes clients et même des gens qui sont pas clients, qui sont pas mentorés par moi, c'est si je sais pas comment le faire, je connais certainement quelqu'un qui peut le faire mieux que moi. J'ai un excellent réseau. Donc, souvent, je présente les gens à d'autres personnes et je donne au suivant.
Fantastique. Christian Guy, merci beaucoup. Ça a été, encore une fois, je le répète, un excellent entretien, une excellente discussion qu'on a eue ensemble. Merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis, à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.